Bonjour, c'est Blandine, pour Des brouettes et des ailes, le podcast qui raconte l'heureuse épopée de mon année. Les pieds dans la terre et le cœur dans le ciel. Épisode 1. Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier épisode. Pour commencer, je vous invite à rejoindre une conversation avec ma sœur Marion. Toutes les deux, on se raconte souvent nos vies. Elle a suivi de très près ce périple et d'ailleurs, elle a très certainement sa place dans les raisons qui m'ont poussée à le faire. Seulement, je ne sais pas pourquoi, on n'avait pas réussi à débriefer ensemble du Festival des Oasis, ce moment particulier de l'été qui avait rassemblé pendant 4 jours en Ariège les acteurs des écovillages et écolieux. J'y étais et j'ai adoré. Je vous propose donc de plonger avec nous dans ces sujets. Dans quel cadre ce festival s'est tenu? Qu'est-ce qu'on y a vécu? Avec qui? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on ressent, partage? Qu'est-ce qui m'a plu? Et peut-être qu'est-ce qui m'a dérangé? On parle aussi des interstices de mon année de voyage, ce qui s'est passé entre mes immersions en écolieu. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée sur les sujets à venir parce qu'on parle un peu de tout. Cet épisode, c'est le tout premier à avoir été enregistré. À ce moment-là, j'avais pas encore totalement masterisé le sujet du son. Vous allez voir, pour cette fois-ci, peut-être, je m'en excuse, vous entendrez les 4 mètres de hauteur libre des appartements belges et leur écho. Mais laissez-vous malgré tout transporter dans l'univers de ce dimanche après-midi à Bruxelles. Tisane framboisier ortie et débrief entre sœurs.
C'est parti. Alors, moi Blandine, j'aimerais qu'on discute du Festival des Oasis auquel tu as eu la chance de participer et on n'a pas vraiment échangé là-dessus, donc c'est un sujet un petit peu vierge pour moi et j'ai plein de questions. Alors, d'abord, le Festival des Oasis, c'est pour qui en fait? Est-ce que moi, qui suis super curieuse de comprendre comment ça marche, les Oasis, qui suis mère de famille et pour qui c'est compliqué d'aller dans un écolieu et d'avoir les expériences que toi t'as eues, est-ce que moi par exemple je pourrais aller au Festival des Oasis pour avoir un shoot de plein d'informations facilement, rapidement sur les écolieux ou pas?
Mais oui, c'est ouvert à tous. En soi, dans un festival des oasis, t'as peut-être, 60% des gens qui vivent en oasis. Et ensuite, ça s'adresse aux gens qui sont intéressés par ce mode de vie. J'ai vu assez peu de personnes qui étaient très loin du sujet et qui venaient juste pour voir et qui repartaient dans leur univers. Généralement, c'est quand même des gens qui soit ont vécu une première expérience en écolieu et ont envie de se poser des questions sérieuses, soit se disent qu'un jour, peut-être, ils aimeraient y rentrer. Et d'ailleurs, il y a un peu un speed dating au sein de ce festival où tu as des gens qui viennent dans l'espoir de trouver le lieu dans lequel ils vont s'installer après. Parce que dans la structure de l'événement, tu as plein de temps qui sont donnés à la rencontre entre les lieux et les gens qui cherchent à s'installer.
C'est intéressant ça, parce que dans ce milieu, enfin, dans l'univers des Oasis, il y a une vraie question du match entre les gens et les lieux.
Oui, absolument, c'est l'une des clés pour qu'un projet fonctionne. Et non seulement, bon, c'est important de sentir le lieu, si jamais tu t'y retrouves, si c'est une terre qui t'appelle, qui te ressemble et tout, mais évidemment, est-ce que le collectif, les gens avec qui tu vas vivre, ça matche bien? Et aussi, est-ce que le projet te correspond? C'est-à-dire qu'en fait, des oasis, t'en as donc, 1300, enfin plus de 1300 aujourd'hui en France. Et ils sont super différents, donc t'as plein de raisons d'être différentes. Et toi, tu vas peut-être être super mordu de permaculture et t'as envie d'approfondir et tu veux aller dans un lieu dans lequel il y a des experts sur le sujet et tout et tout. Ou alors tu veux aller dans un lieu dans lequel la spiritualité est au centre. Ou alors tu veux aller dans un lieu dans lequel on se soucie vraiment du bien-être des enfants, pour les familles. Enfin voilà, il y a plein d'identités. Et l'un des avantages du Festival des Oasis, c'est que tu peux voir, là par exemple, il y avait 80 écolieux qui étaient là. Qui partageaient voilà, sur l'identité de leur lieu, s'ils cherchaient du monde ou pas et tout. Et donc, bah voilà, toi, t'as potentiellement, tu peux voir au moins 20, 30 lieux, enfin, pas les voir, mais rencontrer personnes qui y habitent et avoir des présentations claires de chacun des projets.
Mais c'est ça qui est génial, c'est que ces lieux-là, ils ont fait un travail pour écrire et parler de leurs valeurs pour que ce soit clair. Et de la même manière, les gens qui rentrent dans les oasis, ils ont fait un travail sur eux-mêmes pour savoir exactement leurs besoins, leurs centres d'intérêt, leurs zones de compétences qu'ils peuvent apporter. Et ça, c'est une maturité de structure et de personne qui est super belle.
Oui, bah, c'est sûr que je dirais que c'est l'un des sujets différenciants, moi, de l'univers que j'ai vu là.
il y a quand même un niveau de maturité et de conscience qui est élevé, que ça soit sur qu'est-ce que je veux construire comme lieu, qu'est-ce que je propose, quelles sont nos limites, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on cherche. Et puis chez les personnes aussi, de dire ça me concerne, ça me concerne pas, pour être bien j'ai besoin de ça, etc.
En fait, ça sert à quoi le Festival des Oasis? C'est pour qui? Pourquoi ils organisent ça?
Alors déjà, ils organisent ça, c'est la coopérative des Oasis, donc c'est une organisation que moi je trouve super intéressante, parce qu'en soi ça pourrait être plein de mouvements, chacun dans leur coin, avec un sorte de truc anarchiste, où chacun fait ses projets, et on est sur des petits projets voilà, qui cohabitent, qui sont à côté, mais qui s'enrichissent pas, et qui se structurent pas pour, entre guillemets, proposer quelque chose d'autre à une échelle relativement sérieuse, quoi. Or là, en France, et c'est assez spécifique à la France, t'as cette structure qui s'est montée, ça fait maintenant 15 ans que ça existe, donc au début c'était le mouvement Colibri qui a été initié par Pierre Rabhi, et ensuite c'est devenu la coopérative des Oasis. Bon, j'en dis pas plus là-dessus. Donc la coopérative des Oasis, ils organisent parfois, c'est pas tous les ans, mais je crois que c'est tous les deux ans, le festival des Oasis, donc là c'était 5 jours, 600 personnes en Ariège à Sainte-Camelle, qui est un écolieu. Donc quelque part c'est aussi en faisant ça, bah en fait il y a un écolieu qui a pu vivre aussi de cet événement, parce que financièrement ça a pu leur permettre de gagner de l'argent en proposant quelque chose qui est cohérent, utile, etc. à une échelle assez large, parce que eux c'est rare qu'ils fassent des événements à 600 personnes dans leur lieu. Et donc l'objectif c'est venez vous tous, projets qui avaient des raisons d'être différents, etc. mais nous portons des piliers communs et des valeurs communes, on se retrouve, on partage sur ce qu'on fait, on voit comment on peut s'entraider. Il y a beaucoup aussi cette notion de retour d'expérience, c'est-à-dire régulièrement, on a un vécu, on prend un peu de recul, on se dit ça, ça a bien fonctionné, ça, c'était super utile, ça, c'était dur, est-ce qu'on peut se poser pour analyser, comprendre, tirer des enseignements de tout ça? Et ensuite, c'est typiquement le lieu où ben voilà, tu vas prendre ton micro devant 500 autres personnes et en toute transparence, parce que c'est vraiment un truc, moi, que j'ai aussi beaucoup vu, il n'y a pas de communication, personne n'a intérêt à communiquer pour vendre son truc. Tout le monde s'en fout de vendre son truc, en fait. Donc, t'es là pour partager, en essayant d'enrichir au maximum les uns et les autres pour que les projets puissent se développer le plus possible. Il y a un certain nombre de personnes qui viennent, qui sont auteurs, philosophes, artistes. Il y a aussi des politiques qui ont été invités. Enfin, il y avait la directrice de la région Occitanie, par exemple, qui était là. Et donc, quelque part, ça te donne à vivre et à expérimenter l'univers des écolieux pendant 5 jours. Génial. Mais dans un format très riche intellectuellement parlant. C'est-à-dire que eux, ils parlent de leur université d'été, si tu veux. Donc c'est quand même un moment où on met un peu la connaissance au centre de cette expérience, même si on va vivre des choses aussi ensemble. Mmh. On est là beaucoup pour partager, et il y a énormément d'espaces qui ont été imaginés pour donner lieu à ce partage.
Tu peux nous lire un petit peu le programme du festival, comme ça on a direct un petit... On comprend un peu quelques intitulés d'expériences, de conférences.
Moi j'étais surexcitée quand j'ai reçu le...
Ben oui.
Le programme. Alors moi en plus j'ai un peu tendance à être FOMO dans le genre, donc...
C'est quoi FOMO?
Fear of missing out, la peur de rater quelque chose qui me plaît. Donc généralement je peux un peu me disperser, et là quand j'ai reçu le programme je me suis dit ok... Respire, il va falloir faire des choix, tu pourras pas tout faire. Tellement le programme, moi, il m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, je l'ai transféré à plein de gens en disant « Regardez, il va y avoir ça, si, ça, tel... » Parce qu'en plus, il est riche de noms, de lieux, de personnes qui réfléchissent à des sujets et tout. Je vais vous lire quelques titres de conférences, par exemple, pour commencer. Ou alors non, je vais commencer par vous donner les différentes... les différentes typologies d'espaces qui étaient proposés.
Ouais.
Donc déjà, t'avais tout un tas de conférences et de tables rondes entre différents, entre guillemets, experts. Ils détesteraient que je les appelle comme ça, mais moi, je les vois comme des experts. Donc des conférences, des tables rondes. Il y a des présentations de, du coup, des 80 oasis qui étaient là. Donc tous les matins, tu as des petits slots de voilà, une demi-heure de présentation de tel lieu, si tu veux venir, ensuite tu passes à l'autre lieu et tout. Mm-hmm. Tu as des visites d'oasis, parce qu'en Ariège, c'est quand même un département qui est jonché de plein de... Enfin, il y a quand même un réseau d'une dizaine d'oasis qui se connaissent bien, qui sont florissantes, qui sont connues dans le milieu et tout. Donc il y avait des visites qui étaient organisées où tout le monde... D'ailleurs, c'est marrant, t'es pas en mode visite, on t'a affrété un car et tout le monde dedans. C'est qui a une bagnole, qui a combien de place, attends, moi je suis en camion, mais je vais vider mon camion chez quelqu'un d'autre pour pouvoir accueillir des gens derrière. Enfin bref, c'est assez marrant. Ensuite, t'as des débats. T'as des espaces de débats avec une méthode qui s'appelle le process work, que j'ai découvert là-bas. Après, t'as des soirées qui sont organisées avec des thématiques différentes. T'as des ateliers et des formations où là, t'es en plus petit groupe. Dans différents lieux où t'es plutôt en mode t'as un formateur sur un sujet. T'as des activités corporelles, donc de danse, de yoga, de jeu, et après t'as des projections de documentaires, parce qu'il y a pas mal de gens qui ensuite font des projets artistiques et ou de type documentaire pour partager sur leur projet. Et donc dans les grandes tables rondes par exemple qui a eu, donc ça c'était tout le monde était invité à y aller parce que c'est là où il y avait beaucoup d'intervenants. On a commencé par en quoi les oasis font-elles de la politique ? Quel levier économique pour faire fleurir les oasis ? Comment les écolieux nourrissent-ils de nouveaux imaginaires ? Quel lien entre oasis et lutte locale et sociale ? Parce qu'il y a quand même pas mal ça dans
l'ADN, la lutte.
C'est-à-dire dire non à un certain nombre de choses que la société propose, en revanche, dire oui à une alternative.
Ouais.
Comment faire société ensemble ? Ça, c'était super intéressant aussi, parce qu'on voit bien, et on en y reviendra probablement, que la diversité des gens au sein des oasis, mais aussi faire société ensemble avec tous les gens qui habitent à côté des oasis et qui sont plutôt des campagnards. Et en fait, t'as une vraie tension entre l'identité voilà, de ces gens qui sont un peu à créer un monde utopique pour certains, juste à côté de personnes qui sont plutôt potentiellement précaires, isolées, ou alors dans le monde de l'agriculture où c'est
ou
super dur.
Ou les premières victimes du système capitaliste dans lequel on est.
Exactement. Et du coup, tu peux avoir ce côté, entre guillemets, pour être caricatural, un peu de gauche, bien enraciné, avec là où il y a le plus d'extrême droite. Et comment, ensemble, on arrive à faire société, quoi. Et ça, c'était un sujet qui m'a vachement intéressée aussi pendant ce festival. Voilà, donc il y avait ça. Après, il y avait des conférences sur l'aménagement du territoire. On aménage le monde comme on envisage la vie. Ça, j'ai adoré cette conférence. Ou alors, épopée écologique, la puissance du récit. Ou alors, démasquer les mécanismes de la violence dans les collectifs, avec Sophie Rabhi. Donc voilà, c'était très riche pendant 5 jours.
Tu t'es sentie nourrie au niveau intellectuel ?
Hyper nourrie.
Créatif aussi ? Ça t'a donné des visions, des images ?
Oui, parce que justement, la créativité, elle est vachement au cœur, je trouve, des démarches. Et notamment, moi, je l'ai bien vu pendant ce festival-là. En fait, l'une des soirées proposées, c'était « Qui veut, vient se produire sur scène ». Et il y a eu tellement de propositions, des groupes d'enfants, des adultes, solos, en groupe, qui viennent faire de la musique, du théâtre, des clowns, ou juste qui montent sur scène pour faire chanter l'assemblée, tu vois.
Donc t'as juste un espace et tu choisis un moment pour te mettre en scène et proposer au reste, offrir.
Exactement.
Proposer d'offrir.
Moi, ce qui m'avait vachement touchée, comme je le dis dans l'introduction, c'est le fait que t'as des gens qui sont super doués, d'autres beaucoup moins, mais qui viennent offrir gracieusement.
Beau.
C'est beau, en fait. Et il y a vraiment ce truc enfantin, joyeux, bienveillant, dans la manière de donner et de recevoir ces espaces-là.
Oui, nécessaire aussi que tout le monde puisse s'exprimer.
Voilà, il y a toujours de la place, même ne serait-ce que certaines conférences sont des conférences gesticulées, ils disent ça. Donc il y a des gens qui vont parler, puis d'autres qui vont mimer ce qui est en train d'être dit. Ou alors on va parler, et il va y avoir quelques personnes qui vont faire de la musique derrière, pour rythmer. Enfin bref, je veux dire, le monde créatif est souvent présent, enfin en tout cas l'art est souvent présent autour, et c'est ce qui te permet aussi d'avoir des belles respirations. Et aussi, moi j'ai pas trop de mal avec le fait d'être concentrée longtemps sur un sujet intellectuel, mais il y a plein de gens pour qui c'est vraiment nécessaire d'aller un peu dans le corps, de s'aérer, de changer, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de propositions pour permettre aux gens qui avaient besoin de ça d'alterner. De la même manière que sur la partie artistique, j'avais vraiment aimé, il y a une soirée où en fait, l'objectif de la soirée, c'était le récit des oasis, c'est-à-dire depuis 30 ans, le mouvement s'est formé, comment on a commencé, comment on était perçu, qui participait, et aujourd'hui, 30 ans plus tard, où on en est, où on veut aller, comment on est perçu. Enfin bref, voilà, il y a eu vraiment toute l'histoire qui s'est déclinée en une soirée. Ce qui était génial, c'est qu'ils ont fait ça en mode, évidemment, participatif, puisque c'est vraiment tout à fait fidèle à l'esprit. Et donc, ils ont fait prendre la parole à plein de gens qui ont participé à différents moments du mouvement pour qu'eux viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là, pourquoi ils ont fait ce choix-là, dans quel état d'esprit ils étaient, etc. Ouais. Et c'était drôle parce qu'il y avait pas mal de gens aussi qui disaient « Moi, j'étais dans la pub » ou « Je sais pas, j'étais avocat, machin. » Ils étaient venus me voir pour me poser une question. Au début, je me disais « C'est pas du tout mon truc. » Et en fait, petit à petit, j'ai beaucoup mieux compris ce qu'ils cherchaient à faire. Je me suis quelque part reconnue. J'ai vu qu'en fait, ils portaient certains de mes rêves. Et donc, ça m'a mis en mouvement. Et alors aujourd'hui, je suis un des piliers du mouvement. T'as les gens qui partagent pas mal aussi leur propre transformation. Et donc, le côté artistique de cette soirée-là, c'était un groupe de personnes qui jouaient de la musique derrière pour accompagner le propos. Donc, du coup, évidemment, cette grande sensibilité d'improvisation en fonction de ce qui est dit, de donner du rythme ou de venir calmer un peu, etc. Et en fait, le jeu, c'était, ils avaient chacun 5 minutes pour prendre la parole. Et donc, en fait, les musiciens, ils jouaient tranquillement et ensuite, de plus en plus fort, s'ils dépassaient les 5 minutes... pour que quelque part, à un moment donné, la personne qui prend la parole réalise qu'il est en fait en train de dépasser un peu sur le temps et qu'il faut qu'il l'abrège, tu vois. Mais c'est une manière, je trouve, super douce et marrante. Et parfois, t'en avais, il fallait aller loin dans le niveau sonore pour qu'il réalise que, ah ok, il faut passer la parole et tout. Et voilà, c'est plein de petits trucs un peu créatifs, sympas qui viennent donner de la vie et du jeu à la manière de partager, quoi.
Ouais, et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, était arrivé Mathieu. Donc c'était nos vœux, les vœux que tu présentais au réseau Colibri en janvier 2015. Et tu dis, chiche, une oasis tous les 20 km dans 10 ans. Ou l'inverse, je sais pas. Ou tous les 10 km en même temps. Enfin, beaucoup quoi. Et là, j'ai dit, banco, c'est ça. Alors moi, j'avais ma petite maison à Bordeaux, payée, tranquille, proche de la retraite. Eh ben non, j'ai tout lâché, je suis partie à l'aventure. Et le MOOC, et la fabrique des colibris, et pas à pas, et les rencontres régionales des colibris pour les oasis, pour constituer pour les porteurs de projets d'oasis, et tous ces gens qui se réunissaient, cette émulation, et plein de groupes qui se constituaient. Et un jour, j'ai présenté notre propre projet, et voilà, l'aventure était partie.
Et du coup, depuis, Daniel vit à l'oasis du Coq à l'âme, que vous pouvez découvrir pendant le festival.
Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'était... Donc, j'imagine que c'était intergénérationnel. On devait avoir des enfants qui couraient, mais aussi des personnes plus âgées.
Alors oui, évidemment, c'est bien sûr l'avantage de ces ambiances-là, c'est que c'est très accueillant et inclusif. Il y avait un espace pour les enfants. Il y avait des ateliers, des moments prévus pour les ados et des choses prévues pour les adultes de tous âges. Et effectivement, dans les adultes de tous âges, tu as voilà, à partir de, on va dire, je sais pas, 18 ans jusqu'à 80 ans, tu peux soit prendre la parole, soit écouter, soit etc. Mais oui, tu avais un espace pour les enfants complètement dans la forêt parce que tu as des cabanes, tu as plein d'espaces de jeu et en fait, tu as une sorte d'organisation où tous les parents se relaient les uns les autres pour s'occuper des enfants de manière super fluide. Tu as toujours des gens pour venir non seulement garder les enfants, mais jouer avec eux. Ça fonctionnait super bien et justement, j'étais curieuse d'entendre qu'à la fin du festival, il y avait pas mal d'ados qui disaient avoir passé un super bon moment. Ça, c'est rare quand même, je trouve. Qu'il y ait des espaces qui puissent être aussi épanouissants pour les adultes que les enfants, que les ados.
Et alors, au festival, quelle était la place des femmes par rapport à, par exemple, un lieu comme un centre commercial à Paris, Vélizy 2, par exemple ?
La place des femmes, concrètement, dans l'espace, j'ai envie de dire, en fait, entre ce festival et Vélizy 2, tout est tellement différent, puisque tout... tout se passe dans la nature, c'est très peu transformé, donc de toute façon, la nature est accueillante pour les femmes tout autant que pour les hommes. Mmh. Alors, après, si, t'as quand même le fait de, dans les installations, t'as des trucs qui sont genrés, bon, par exemple les toilettes ou parfois les douches, où tu vas avoir, par exemple, un truc qui peut être marrant, c'est t'avais des endroits pipi only. Parce qu'en fait, eux, ils sont super contents de récupérer le pipi des gens pour leur champ. Parce que c'est rempli d'azote et c'est un fertilisant. Aujourd'hui, le marché des fertilisants, il est extrêmement cher. Ça sert à rien de prendre des trucs chimiques quand, en fait, notre propre pipi nourrit les sols, quoi. Donc, ils récupèrent ça. Et t'avais notamment... moi, je trouve que le symbole, il est marrant parce que dans les formats de toilettes, pipi only, t'avais notamment des grosses bottes de foin dans lesquelles étaient plantés des entonnoirs. Et les gens pissaient dedans pour imbiber le foin du pipi qui ensuite va être épandu sur les champs plus tard. Mmh. Pour avoir du foin azoté, si on veut. Et évidemment, bah, tu vas avoir des pisses de boue pour les hommes et des pisses de boue pour les femmes. Mais tu vois, par exemple, moi, c'est la première fois que j'utilise un pisse de boue.
Ah, mais c'est trop bien, non ?
Mais oui.
Et alors ? C'est bien ou pas ?
Bah oui, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. T'as des... Voilà, t'as des pipi only femmes, pisses de boue.
Ok.
Enfin, ouais, c'est... Et après, c'est sûr que je pense que le côté accueillant pour les femmes, c'est surtout l'état d'esprit des gens, simplement, en fait.
Il y avait autant de femmes que d'hommes qui prenaient la parole.
Ah oui, oui, bien sûr. Alors oui, évidemment, oui.
On n'était pas en mode PowerPoint, costard cravate, collant pas filé.
Collant pas filé, pas du tout, pas de collant, très peu de collant. Non. Non, il y a vraiment... Après, c'est vrai que dans le mouvement des oasis et des écolieux, t'as pas mal de... Enfin, tu vois, moi, je pense par exemple aux personnes qui m'ont marqué là, de ce festival. Tu vas avoir Sophie Rabhi, la fille de Pierre Rabhi, qui est quelqu'un d'assez influent dans le mouvement parce qu'elle est là depuis le début et qu'elle porte l'héritage de son père. D'ailleurs, je suis allée visiter son oasis Poulart à côté, là. C'était super intéressant. Bref, je mets ça de côté. Mais il y a aussi, je pense, à Cécile Renoir, qui est... Ça, c'est drôle aussi dans le spectre de voir vraiment la différence des gens qui vont dans ce genre de festival. Je pense que c'est important de se faire une bonne représentation de ça aussi, puisque généralement, quand je parle des oasis, les gens se font une idée d'un stéréotype qui existe, mais qui n'est pas du tout ce qu'on trouve, en fait, dans celui-là. Donc, l'une des femmes un peu influentes que moi, j'ai vraiment aimé entendre parler... C'est notamment Cécile Renoir, qui est une philosophe, auteure de beaucoup de livres, qui est dans la littérature, les beaux-arts, etc. Et qui, elle, est chevalier de l'Ordre National du Mérite, qui est chevalier de la Légion d'honneur, et qui est d'ailleurs bonne sœur, enfin sœur de l'Assomption. Mais il y a aussi, voilà, c'était la présidente de la région Occitanie qui était là, c'était aussi, enfin, tu vois, il y a un certain nombre de femmes, en fait, influentes, qui prenaient la parole, tout comme des hommes. Parce que le responsable de la coopérative des Oasis est un homme génial, Mathieu Labonne. Bon, t'as évidemment plein de mecs aussi, mais c'était très équilibré, effectivement.
L'environnement, le cadre dans lequel t'étais dans ce festival, c'était comment ?
Je me souviens quand on est arrivé avec Gloria, mon camion, enfin mon van, sur le lieu de Sainte-Camelle, il faisait 40 degrés. Moi, je suis pas hyper à l'aise avec la chaleur. Et en fait, en arrivant sur le lieu, je me suis dit, ok, on va être 600. J'avais un peu d'appréhension. Je me suis dit à un moment, est-ce qu'ils vont avoir assez d'eau ? Parce que parfois, c'est des lieux qui sont autonomes en eau et tout. Donc je me disais, est-ce qu'ils ont ils comptent sur des sources qui peut-être fonctionnent plus très bien ? Est-ce qu'ils ont des puits ? Est-ce qu'ils sont sur le réseau ? Est-ce que... Bref, donc j'avais ce premier truc en disant, est-ce qu'on va être limité dans notre consommation d'eau ou pas ? Ça m'inquiétait un peu. Et après, il y avait vraiment le sujet de la chaleur. Comment on va gérer ça ? En sachant que je savais que tout allait se passer dehors. Et donc, évidemment, il n'y aurait pas de salle climatisée, quoi. De toute évidence. Et donc, je me disais, moi, dans Gloria, là, il fait 40 degrés, j'ai pas la clim. Hein, donc, en fait, même, je me souviens, on baissait les fenêtres. On roulait à 50, 60, 70 km/h. J'avais l'impression d'être dans un four à chaleur tournante. Genre vraiment, tu suffoques en fait. T'es tout le temps humide, t'as tout le temps chaud, tu colles partout. Et donc en arrivant là-bas, je me disais, est-ce qu'on va pouvoir prendre des douches comme on veut ? Est-ce qu'on va pouvoir respirer ? Et surtout, où est-ce qu'on se gare ? Parce que dans Gloria, même si c'est un camion blanc, tu te gares au soleil la journée, mais la nuit, tu dors pas en fait. C'est vraiment, il fait trop chaud quoi. Et j'étais là, oh là là, on va être je sais pas combien de camions, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vivent en camion. Et je sais pas du tout s'il y aura de l'ombre pour tout le monde. Mmh. Et quand on est arrivé et qu'ils nous ont proposé de dire, voilà, les camions, c'est dans la forêt. J'étais là, non. J'étais là, non, mais c'est génial. Je m'attendais à ce que... Alors, non, pas un parking, mais je m'attendais à ce qu'ils nous donnent une sorte de champ qui soit pas droit, parce que t'as aussi tout ce truc. Quand tu viens en camion, t'es content de pouvoir te stationner à plat, tu vois. Mmh. Sinon, tu dors complètement coincé. Ou ton eau, quand tu veux te faire cuire un truc, ça déborde. Mmh. Bref. Et donc là, ils nous disaient, ouais, les camions dans la forêt. Et en fait, il y avait de la place pour 150 camions. Mais du coup, tout le monde respectait les uns les autres en disant, ok, évidemment, c'est pas du tout aligné. Les gens sont pas en épi les uns à côté des autres. Parce que tu te coinces entre deux armes, entre trois armes, entre machin. Tu fais des sortes de soleil, des rayons de soleil, des fleurs.
Et ça s'organisait automatiquement.
Ça s'organisait super bien. Les gens, ils optimisaient, ils se collaient un peu les uns contre les autres pour que tout le monde puisse rentrer à l'ombre. Et tu viens t'installer là. Donc moi, j'étais super soulagée de voir que ils avaient pensé à ça. En fait, j'avais vraiment l'impression qu'on prenait soin de nous, tu vois. De dire, bien sûr, on vous accueille, mais on va faire ça bien. C'est important que les gens vivent bien ce festival, on est nombreux et tout. Et après, l'autre truc, c'est par exemple, il y avait 6 douches pour 600 personnes. Mm-hmm. Et le truc fou, c'est qu'on n'a pas attendu une fois pour prendre une douche. Alors que tout le monde prenait des douches parce qu'il faisait super chaud, les enfants, les adultes, mais c'est juste que naturellement les gens s'étalaient en se disant c'est mieux d'y aller plutôt tôt le matin ou en plein milieu de journée parce qu'il y a des conférences et que les gens ils vont pas y aller maintenant, ou alors pendant la nuit ou juste avant de se coucher ou je sais pas quoi. Et c'était marrant aussi de voir ce sujet de la mutualisation, de voir qu'en fait 6 douches pendant 5 jours pour 600 personnes, ça fonctionne très bien. Donc pour continuer sur l'environnement, juste pour terminer là-dessus, donc tout se déroule dans la forêt en fait. Donc, c'est la canicule, on est 600, mais on va être en permanence protégé par les arbres de la forêt, du soleil et de la sécheresse, parce que du coup, t'es dans un sort de climat qui est aménagé pour ça. Et avec des points d'eau qui sont créés, évidemment, t'as pas l'eau courante partout du tout, mais en revanche, t'as des gens qui viennent avec des grandes cruches à un certain endroit et qui vont te faire, moi ça j'adorais, en sortie des toilettes, tu sors et t'as une sorte de petit verre troué au fond, et tu prends dans un sorte de jerrican un peu d'eau que tu mets dans ton gobelet, donc tu sais que c'est ta dose pour te laver les mains, ta dose d'eau que tu peux prendre, et t'as un petit filet d'eau qui coule à travers le fond de ton petit truc en poterie là, et t'as pile de quoi te laver les mains avant de repartir, et en fait ça sous-entend tu peux mettre des points d'eau à plein d'endroits où t'as peu de consommation d'eau pour te laver les mains ou même te laver le visage ou je sais quoi si t'as besoin. Sans avoir l'eau courante, quoi. Et des gens, évidemment, qui s'organisent pour te réapprovisionner.
En fait, il y a plein de trucs super malins. Un peu comme dans une ruche, de manière organique, tout le monde prend la place en respectant les autres. C'est une question de conscience du collectif, en fait.
Oui, alors c'est évident que dans ce genre d'ambiance, y a effectivement une conscience du collectif. Tu te demandes un peu toujours de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Enfin, tu sais, je sais pas, il y a ce truc de je vais utiliser de l'eau à partir du moment où je vois qu'il n'y en a plus, soit je me sens tout de suite responsable du fait de remettre de l'eau dedans, soit je me sens responsable d'aller prévenir la personne qui est en charge. Mais tu restes pas en te disant, ah tiens, il n'y a plus d'eau, et tu te barres.
Et d'où ça vient, ça, cet état d'esprit qui n'est pas de consommateur, en fait?
Mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que je me redisais tout à l'heure. Dans ce festival, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des gens qui ont proposé le cadre, la manière dont ça va s'organiser, le timing, l'orientation, éventuellement même les titres des grandes conférences. Mais après, tout le monde participe. T'as un sorte de truc de... T'as personne qui est là pour consommer le festival. Tu viens pas, tu payes, t'en profites, tu t'en vas. Non, non. Tu viens, t'es à minimum, tout le monde est bénévole pour faire différents trucs. De toute façon, c'est la base, tout le monde doit des heures de bénévolat, soit pour cuisiner, soit pour nettoyer des trucs et tout. Ensuite, t'as énormément de gens qui sont là pendant le festival, mais qui vont venir partager leur expérience, donc tenir des stands, faire des conférences, proposer de s'occuper des enfants ou quoi. Et effectivement, t'as cette posture qui fait que dans les plus petites choses du quotidien, tu vas te sentir concerné et tu vas sentir que... T'es acteur, t'es vraiment ce fameux mot consommateur là, de dire je viens pour en profiter, mais à chaque fois en fait je me sens responsabilisée. Alors la question du ça vient d'où, moi je pense déjà d'une part le festival n'existe que si et seulement si les gens s'emparent du sujet et proposent, agissent. Enfin, c'est comme la scène ouverte. Tu peux proposer une scène ouverte, soit t'as que des consommateurs et t'as rien qui se passe, parce que personne ne va oser ou décider d'eux. Soit, comme au Festival des Oasis, tu vas avoir tellement de propositions que tu tires au sort les gens qui ont le droit d'aller sur scène, tu vois. Mais moi, je trouve ça tellement soulageant, en fait, de voir qu'il y a des endroits dans lesquels les gens sont tous droits, debout, acteurs, se sentent légitimes de partager. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment de « je suis plus juste là pour payer, consommer, partir, quoi ».
Mais c'est des gens vivants, en fait.
Mais oui, complètement.
C'est quoi l'alimentation, l'alcool, la place des substances? Bon, quand on dit festival, c'est un nom qui est pas, c'est pas un sommet ou c'est pas un, justement une université. Ça s'appelait un festival.
Alors
pourquoi d'ailleurs?
Bah, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça festival, parce qu'en réalité ils parlaient aussi d'université d'été, mais je pense que voilà. Effectivement, oui, c'était un peu la fête quand même de se retrouver tous les soirs. Il y avait quand même des trucs, des concerts avec de la danse, avec des histoires qu'on raconte. Enfin, voilà. Alcool, évidemment, comme souvent dans les écolieux, t'en as un peu, mais c'est quand même assez contrôlé, restreint. Donc là, t'avais une ouverture d'une buvette de 18h à 21h avec de la bière et du vin. C'est tout. Les substances, alors j'ai rien vu, il me semble, décrit par rapport à ça, mais. Moi, de ce que j'ai vu dans les écolieux, c'est quand même vraiment... On demande à tout le monde d'être conscient de ses addictions et de laisser ça sur le pas de la porte avant de rentrer. Moi, par exemple, j'ai pas vu de gens qui consommaient des drogues ou quoi pendant ce festival. Je sais pas... Voilà, ça me semble pas... En tout cas, c'était pas dans mon champ à moi. Et après, la nourriture... Non, mais le truc de dingue. La nourriture était 100% vegan, faite maison, pour 600 personnes. Avec des produits du coin. Donc ça, c'était aussi toute une logistique.
Vegan.
Vegan.
Ça veut dire qu'on n'a pas de fromage, on n'a pas d'œufs.
Non, t'as pas d'œufs, t'as pas de lait, t'as pas de fromage, et c'était délicieux. Et bah, il y avait notamment, je me souviens d'un repas, c'était une sorte de t'avais des sortes de pâtes thaï, donc pâtes de riz. En plus, évidemment, ils font attention au gluten et tout. Donc pâtes de riz avec plein de champignons, de chouquel, de machin, de graines, avec un sorte de bouillon que tu mettais dedans, du tofu. Délicieux. Avec, t'as plein de salades, avec plein de des vinaigrettes super bonnes. C'est coloré. Et en fait, c'est marrant parce que t'as, à Sainte-Camelle, t'as pas mal de cuisine d'extérieur. Donc toute la journée, quand tu te trimbales d'un tipi à un autre pour aller à une conférence et tout, tu croises le chemin de tous les gens qui sont en train de s'affairer en cuisine parce que c'est leur tour. Dans des sortes de, encore une fois, grandes cabanes en bois ouvertes, avec de la fumée qui sort parce qu'il y a des trucs qui cuisent. Tu vois des sortes de grandes caisses de champignons découpées dans un coin, et puis des gens qui sont là en train de laver les salades à tour de bras, et ils sont 10 à laver les salades. Enfin, voilà, donc ça fait vraiment partie, c'est un peu au cœur de
et l'organisation. Et les couverts, tu les lavais, c'était pas des trucs jetables, j'imagine?
Non, évidemment, tu prends des trucs tout dépareillés au début de ta chaîne. En fait, le matin, t'arrives, on te donne, tu prends un ticket dans une zone. T'avais 4 zones dans lesquelles tu pouvais t'installer. Tu prends un ticket, tu décides d'aller dans la zone bleue, jaune, rouge ou verte. Tous les jours, tu changes. Et du coup, c'est histoire de répartir la masse pour qu'il n'y ait pas 500 personnes qui aillent au même endroit faire la queue, machin. De toute façon, c'est le même repas partout. C'est juste où tu vas aller t'installer, où tu vas aller t'asseoir pour déjeuner ou dîner. Et de toute façon, t'es sur des grandes tables où tu te retrouves aussi à côté de gens que tu connais pas. Donc il y a plein de choses qui sont faites aussi pour créer les discussions, les débats, les relations. Et ça, c'est ça qui est génial, c'est aussi le fait que comme t'es participative, bah, en fait, tu vas te retrouver potentiellement à déjeuner à côté de la personne qui a fait une intervention la veille sur un sujet qui t'a vachement plu. Et du coup, t'as l'occasion d'approfondir avec cette personne et de prendre le temps de...
Tout le monde est au même niveau.
Oui, t'as une horizontalité qui fait que... Ah, mais attends, toi, t'as partagé un truc hier, là. Moi, je voulais absolument qu'on en reparle, mais je t'ai pas retrouvé ou je sais pas quoi. Et en fait, on se retrouve à déjeuner à côté, donc
et
génial.
Ça, c'est une richesse.
Mais c'est génial. Parce que normalement, c'est vrai que quand t'es dans un mode consommateur, t'as les organisateurs, les consommateurs. Et puis les organisateurs, ils ont pas le temps, en fait. Ils sont là... potentiellement, donc moi j'ai ma carte VIP, j'ai enfin ma conférence, je pars, je suis inaccessible, ouais. Tu vois. Là, pas du tout, en fait, tout le monde est là et les gens qui font que ce festival existe sont aussi des gens qui profitent du festival.
Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que t'as adhéré vraiment à toutes les idées, les propos, il y a des choses qui sont venues te déranger, avec lesquelles t'étais pas d'accord?
Il y a eu tellement de choses qui ont été partagées. J'ai l'impression de m'être beaucoup nourrie quand même des expériences des uns des autres, notamment sur des gens qui venaient partager des gros conflits qu'ils ont eu dans leur collectif en disant voilà ce qui nous est arrivé, voilà selon moi pourquoi c'est arrivé, comment on aurait dû changer ça, etc. Ça qui sont des décisions, enfin en tout cas des discussions qui sont un peu difficiles. Alors ça vient pas du tout me tendre parce que moi je me nourris de tout ça et je dis waouh, c'est génial d'avoir une telle maturité dans la manière de partager là-dessus. Voilà, d'être sur scène devant plein de gens et de venir un peu se mettre à nu en disant dans notre collectif il s'est passé ça, j'ai ressenti ça et je pense que ça c'était pas bon, mais moi j'ai participé à ce conflit de telle ou telle manière. Ça c'est des trucs qui peuvent mettre un peu mal à l'aise quand même parce que tu dis oula, waouh, c'est hyper engageant ce genre de prise de parole. Après, il y a eu... mais j'ai plutôt été fascinée de voir... les gens, parfois, effectivement, s'opposaient sur... par exemple, l'un des sujets que j'ai trouvé central dans le Festival des Oasis, c'était une partie de l'arc-en-ciel de tous les gens qui participent vont te dire « Moi, je veux créer une alternative à cette société et en fait, le moins je m'en rapproche, le mieux je me porte. Je veux pas cautionner, alimenter... je veux pas de récupération politique de notre projet, je veux pas... Alors oui, bien sûr, je suis content que les individus puissent venir se nourrir de ce qu'on fait ou qu'on se rencontre, etc. Mais moi, par contre, il est hors de question que je vienne travailler avec telle entreprise ou tel parti politique ou je ne sais quoi. Et des gens qui parfois vont pointer du doigt d'autres, par exemple Cécile Renoir avec le campus de la Transition, qui est un lieu à Fontainebleau très connecté au monde parisien, aux grosses entreprises, aux grandes écoles... De la région parisienne, et qui te dit eh ben non, nous on pense pas ça du tout, on pense qu'il faut vraiment faire que la transition vienne notamment de ce qui soutient notre société, donc des institutions, des entreprises, des écoles, et en fait si on se désintéresse d'eux on est tout seul dans notre coin, on sert à rien, il faut absolument qu'on vienne un maximum en fait se connecter à tout ça sans se laisser pervertir, parce que c'est un peu tout le truc de dire après tu peux retomber dans d'autres schémas qui sont plus les tiens et tout. Et ça par exemple c'était une tension que j'ai adoré observer dans les prises de parole, dans les questions, dans est-ce que vous avez pas l'impression d'être en train de d'aller ça pointer du doigt parfois un peu, tu vois, en disant attention.
tel lieu.
Ouais, ou en tout cas, non, mais dans les prises de parole, il y avait des gens qui posaient des questions en disant « Mais attendez, vous dites ça, est-ce que vous avez pas l'impression de faire un pacte avec les grands de ce monde qui détiennent trop de pouvoir et desquels on est en train d'essayer de se détourner, ou en tout cas de faire sans ?» Mais ce qui est fou par rapport à cette histoire de climat, c'est qu'on était en pleine canicule pour le festival, ce qui nous mettait bien dans l'ambiance aussi des enjeux qui allaient être discutés. Mais c'était une canicule où on a eu, en gros sur les 5 jours, il y a eu 3 jours très chauds. Et ensuite, il a plu énormément une nuit et il faisait 15 degrés en dessous le lendemain, presque froid. Donc là, c'était vraiment... Ok, on est à fond dans le sujet du dérèglement climatique. Là, on est passé d'un extrême à un autre. Pas du tout d'eau, super chaud. Beaucoup trop d'eau, froid, en plein mois d'août. Et le truc génial, c'est qu'en fait, tu réalises que la forêt te protège des deux. Tu vois ?
Ouais.
C'est-à-dire que...
On était vraiment physiquement, émotionnellement, intellectuellement dans un cadre qui était résilient.
Oui.
En fait.
Mais oui.
Dans tout, tout transpirait la justesse de posture, quoi.
Mais oui, c'est ça. Et en fait, c'est... L'arbre, il est là quand il fait super chaud. Il vient te donner de l'humidité, de la fraîcheur et de l'ombre. Et quand t'as des torrents d'eau, ben en fait, il va venir capter aussi plein d'eau dans ses racines, dans son sol. Le sol va absorber beaucoup. Donc quelque part, tu te retrouves pas non plus avec des inondations. Et ensuite aussi, il te protège de la pluie, où tu peux parfois passer des temps dehors quand il pleut à être très à l'aise dans la forêt et à te protéger du vent. Et ça, c'est juste... En fait, en sortant, je me suis dit, on a eu des conditions climatiques extrêmes et on l'a très bien vécu alors qu'on était 600... En fait, tout au départ m'aurait incité à croire que ça allait vraiment compliquer les choses, quoi.
Ok, Blandine, moi, j'ai envie de dire, pour conclure sur le sujet du Festival des Oasis, ce que je trouve marrant, c'est que là, on parle du festival, de son organisation, des personnes qui étaient, de toutes les idées partagées comme quelque chose d'extraordinaire, parce que nous, on le connaissait pas avant, et qu'on le découvre. Mais en fait, c'est juste se reconnecter à notre nature d'humain et notre organisation sociale primaire, d'être presque comme des cellules qui vont s'organiser de manière organique pour fonctionner ensemble, en harmonie avec la nature. Et en fait, c'est juste des choses qu'on a oubliées, mais qui sont notre nature. C'est juste trop drôle, je trouve, de prendre du recul là sur notre conversation et de se dire, ben, on l'avait oublié, nous, petits humains du 21e siècle. Mais oui. C'est là, ça a toujours été là, et on vit ensemble entre humains comme ça, de la bonne manière.
Ouais, c'est vrai que c'est à la fois fou, à la fois beau de recomprendre le côté majestueux de la forêt qui nous protège en toutes circonstances, tu vois. C'est ça peut paraître... Enfin, oui, je veux bien voir des gens qui rigolent d'entendre ça. De dire, waouh, on n'a pas inventé l'eau chaude par ici. Mais c'est vrai que quand tu le vis, c'est toujours très différent, en fait.
Non, et moi, je te rejoins sur l'étonnement et l'émerveillement.
Ça me fait penser à ce livre de Pablo Servigne qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle.
Bien sûr.
Qui explique à quel point dans la nature ça fonctionne comme ça, de base, et que c'est le système le plus résilient.
Super, belle conclusion sur le sujet du Festival des Oasis. Et maintenant, j'aimerais te parler, Blandine, un petit peu des expériences, pour continuer sur les expressions de Pablo Servigne, les expériences aux interstices, donc les choses qui étaient intercalées et entre tes expériences dans les écolieux pendant cette année, les moments de transition, les moments creux, et même les événements, soit des lectures, des rencontres ou des expériences que tu as faites qui ne sont pas dans des écolieux, mais qui ont été des pierres posées sur ton chemin, des pierres importantes. Donc, plus précisément, ma question c'est, est-ce que tu peux me citer 2-3 choses de cette année qui sont pas des expériences dans les écolieux, mais qui t'ont vraiment fait écho à ce parcours cette année-là, d'une autre manière, peut-être, pourquoi, comment?
Oui, alors, y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, il y a eu quand même cette expérience, j'en parle pas du tout là, mais dans cette année, j'ai commencé par un mois au Québec, chez Athanase, donc dans une ambiance vraiment hivernale, grand froid, à vivre dans un lieu un peu plus isolé, avec beaucoup de silence et de solitude, et ça a été une bonne pierre blanche qui a permis de faire cette transition entre une vie très citadine, très effervescente, avec beaucoup de choses à l'extérieur, et presque une énergie qui sort tout le temps de moi comme ça, sans qu'il y ait forcément de cycle qui vienne te régénérer correctement. Donc cette expérience là au Québec qui a duré un mois, c'est sûr que c'était pour moi fou de me réveiller, d'avoir 2 heures de ski de fond sur un lac immense, dans le blizzard ou au soleil, ou avec beaucoup de temps de méditation qui m'ont permis d'initier cette année vraiment différemment quand même. Ça, c'est une pierre blanche. Il y a aussi eu une dimension qui m'a vachement plu, et peut-être que j'en parlerai aussi dans un autre podcast, mais la dimension du corps qui a été assez importante, notamment à travers la danse, parce que en fait j'ai réalisé que dans le mouvement des oasis, t'as pas mal quand même cette culture du chant, de la danse, et en fait j'ai fait ce festival cet été de pendant une semaine là, qui dure 2 semaines en réalité, mais un festival de danse traditionnelle folk paumé au fin fond de l'Auvergne là, avec plein de gens géniaux de tous les âges, des enfants, des personnes âgées, et à voir et apprendre à danser des danses de tout un tas de cultures et de pays différents, de traditions différentes. Le nom du festival, ça s'appelle le Grand Bal. Et enfin, on dit Génétine parce que c'est le nom du petit village dans lequel il y a quelqu'un qui accueille depuis maintenant 30 ans tous les étés dans son jardin ce festival avec 2000 personnes venues de plein de pays d'Europe pour venir partager leur danse traditionnelle. Et en fait, c'est vraiment se reconnecter aux traditions populaires d'antan dans la manière de faire la fête ensemble, de se reconnecter, de faire village et tout. Et d'expérimenter ça, ça a aussi été un moment génial pour moi. J'ai vraiment adoré vivre la rencontre à travers le corps avec des gens de tous les âges, de toutes les cultures. Et même ne serait-ce que de voir des couples de vieux comme ça, de 80 ans, danser d'une manière tellement belle. Et c'est encore une fois tu sens les gens vivants, tu vois.
Oui, quand t'es sortie de ce festival de danse, t'as été nourrie d'une certaine manière.
Ouais.
Et tu as réalisé que tu avais soif de quoi, du coup, avant, sans même t'en rendre compte ?
Eh bien, je pense que c'est une sorte de soif de beauté et de poésie. Je crois que... Ouais, je crois vraiment qu'il y a ce truc de... En plus de ça, en fait, dans ce festival de danse, t'as que des instruments acoustiques. Les gens, ils sont là, ils jouent de leurs instruments. En fait, j'avais jamais fait un bal, dans le sens où t'es dans une salle, t'as une scène... T'as des instruments sur scène qui vont guider une danse. En fait, généralement, oui, j'ai fait des concerts, j'ai fait des DJ sets où tu danses, mais j'avais jamais fait avant des concerts acoustiques de gens qui vont jouer d'un instrument pour te faire danser. Avec des violons, des contrebasses, des violoncelles, de l'accordéon beaucoup, de la vire, enfin des vieux instruments aussi, à apprendre des vieilles danses. Donc il y a un truc, très beau, très poétique, très doux aussi. Et après, il y a une sorte d'énergie aussi qui dépasse toutes les frontières. Enfin, il y a un truc où t'as l'impression d'aller chercher une unité. Qui dépasse nos différences physiques, intellectuelles, culturelles, enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose. Je me souviens notamment d'une expérience au sein de ce festival qui m'avait vraiment bouleversée, qui m'a marquée, quoi. C'est un exercice où on était une centaine dans une salle et on nous a appris à tous se mettre en mouvement exactement en même temps sans que personne ne donne le départ. Et donc, en fait, t'as une sorte de t'es dans un état méditatif tel que t'as une conscience de tout ce qui se passe autour de toi, corporel.
t'es pas juste en train de regarder ou d'écouter, c'est pas juste ça qui te permet de te dire « Ok, là, on est en train de se mettre en mouvement ensemble. » C'est comme si toutes les cellules de ta peau et de ton corps sont éveillées et conscientes à ce qui se passe autour de toi. Et dans un souffle, soudainement, alors que ça fait, je sais pas, 2-3 minutes et demie que t'es statique dans une pièce et que tu ne bouges pas, soudainement, t'as 100 pieds qui se soulèvent en même temps et qui atterrissent en même temps au même endroit, tu vois. Donc on est tous en cercle comme ça, enfin on est une sorte de masse en cercle. Et juste là, comme ça, en étant conscient de ce qui se passe autour, ces 100 personnes forment une unité à un instant précis, tu vois. Et c'est comme si t'avais l'impression soudainement d'être une cellule d'un organisme. Et c'est plus juste toi, en fait, t'es connecté à tout ce qui se passe autour. Et de la même manière, après, on se met en marche et à un moment, on va dire, bah voilà, dans un souffle, soudainement, et ben on va tous s'arrêter au même moment. Et tu sais presque pas expliquer comment c'est faisable, en fait. Personne, il n'y a pas quelqu'un qui s'est arrêté et donc derrière, tout le monde s'est arrêté en chaîne. Il n'y a pas quelqu'un qui, à un moment, qui a dit 3, 2, 1, stop. Non, c'est juste, soudainement, on comprend, on conscientise le fait qu'on va juste lever le pied et ça sera terminé maintenant. Et ça, je sais pas, à vivre dans le corps, c'est cette sorte d'interdépendance, de conscience de ce qui se passe autour et tout. J'ai trouvé ça super fort.
T'as expérimenté dans ton corps, dans tes cellules, la conscience collective.
Ouais, exactement.
En fait. Et c'est quelque chose qu'on vit tout le temps, mais on l'entend pas, on le voit pas, on le regarde pas. Et en fait, quand on croise quelqu'un dans la rue, quand on est dans une pièce avec d'autres gens... Quand on écoute quelqu'un parler et qu'on est plusieurs à table, bah, elle est là. Ça me fait penser à une branche de notre système nerveux qui est le système nerveux social. Ça me fait penser à l'énergétique, à plein de choses invisibles qui nous régissent notre manière d'être ensemble et qu'on comprend pas, qu'on connaît pas bien.
Ouais.
Oh, c'est trop beau.
Dans les pierres blanches aussi des interstices, il y a quand même, il y a quand même eu beaucoup aussi de, mine de rien, de discussions avec des gens que j'ai retrouvés après des expériences. Parce que, en fait, tu retrouves les gens, mais t'es plus au même endroit. Toi-même, t'es plus la même personne, tu vois. Et du coup, en fait, dans les relations, ça met plein de choses en mouvement aussi, autour de toi, je trouve. Donc il y a eu beaucoup de discussions particulièrement intéressantes et je pense fertiles dans les interstices de ces expériences qui font que les gens que j'ai pu voir cette année-là sont aussi des gens avec qui j'ai cultivé quelque chose de particulièrement profond. Et aussi, il y a eu les interstices de type randonnée, itinérance, ça bouge dans mon ventre... de type itinérance à la montagne ou à vélo, parce que voilà, j'ai fait pas mal ça aussi, de partir dans la nature, me balader, plutôt à plusieurs, en groupe. Et ça, c'était toujours des respirations aussi super fertiles, quoi.
Des temps d'intégration.
Ouais, exactement, voilà, c'est ça, c'est des temps d'intégration. Ouais.
Moi, ce qui m'a intéressé, je sais qu'une fois tu m'avais raconté un petit peu ce moment où tu sors d'un lieu, tu sais que t'es transformé, il y a quelque chose qui a bougé en toi, t'as un peu peur de retourner là d'où tu venais avant. Les discussions que t'as eues en sortant de la ferme légère avec tes covoitureurs ou...
Ouais.
Ouais, c'est sûr que c'est pas du tout rien de rentrer dans un univers et d'en sortir. T'as toujours un temps d'adaptation qui est quand même conséquent quand tu rentres dans une expérience, dans un écolieu, dans un collectif, parce que t'y vis, hein, concrètement. Mais c'est aussi difficile quand t'en sors, parce que tu te sens différent, t'as des référentiels qui ont bougé, t'as des choses qui te semblaient totalement normales avant qu'ils ne sont plus du tout, t'as des manières de communiquer ou d'écouter ou de concevoir les choses qui ont pu un peu évoluer, parce que parfois, même en 3 semaines, ces expériences, elles étaient très transformantes.
Et alors, toi, ce que tu as vécu particulièrement, c'est le moment où moi, j'ai quitté la ferme légère, qui était ma première expérience en écolieu, une expérience assez radicale. Et quand je suis sortie, j'ai fait un bout de trajet avec Camille et Arthur, deux amis de la ferme. Et puis, on se demandait tous, bon, bah, comment ça va se passer pour vous, la suite, le fait de revenir dans vos vies, ou alors de retourner avec vos amis ou votre famille et tout. Et moi, je me souviens avoir formulé sur le trajet du retour un truc du style, je suis en même temps super heureuse et super excitée de voir ma famille, et en même temps, je crois que c'est la première fois que je ressens une sorte d'appréhension dans le fait de retourner là-bas, comme si j'avais peur d'être en décalage. Et ce qui était chouette, c'est qu'en ayant partagé ça, les deux m'ont dit « Ah, mais ça, c'est intéressant, tu devrais leur dire. » Et j'étais là, oula, bah non, je vais pas leur dire, attention, j'arrive, j'ai peur d'être en décalage. Ils m'ont dit, mais si, en fait, envoie-leur un message et dis-leur. Et si tu penses pouvoir faire quelque chose pour réduire potentiellement ce décalage, bah fais-le, mets-le en place. Et en fait, ils m'ont fait vachement réfléchir. Je me suis dit, bah oui, c'est très sain, ça. Et donc, j'ai envoyé un message à mes frères et sœurs, mes parents, dont tu fais partie, où je vous ai dit quelque chose comme, voilà, je rentre d'une expérience hyper riche, où j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai aussi pris conscience d'un certain nombre de choses, et en fait, je suis super heureuse de vous retrouver, mais j'ai aussi de l'appréhension par rapport au potentiel décalage entre nous, et donc je veux vous partager une soirée d'échange où j'aurai le temps de vous partager mes enseignements, mes apprentissages, pour aussi que vous compreniez d'où je viens. Il y a vraiment ce truc aussi de j'ai besoin que au moment où j'arrive, il y ait un espace de discussion pour qu'on puisse se retrouver sans faire comme si il s'était rien passé ou sans faire le fameux truc de on prépare l'apéro et en fait on va te poser les questions. Alors en trois mots, ton expérience, qu'est-ce que t'en retiens? Tu vois, ce genre de questions, en fait c'est impossible de répondre tellement t'as tout un univers dans la tête.
Eh ben oui, je me souviens de de ce message et je me souviens de cette soirée où t'as super bien mené la soirée, où on a pu faire un peu une overview et parfois rentrer dans le détail de certains aspects de ton expérience dans la ferme légère, et tu l'as organisé assez vite quand on s'est retrouvés, et ça c'était génial. Et moi, et donc je sais que tu vas parler de la ferme légère dans un autre épisode, donc ça on pourra aussi entendre. Et aussi pour continuer là-dessus, j'ai envie de te demander, t'avais peur de te sentir en décalage sur quoi? Alors concrètement, donne-nous des exemples.
Bah, j'avais peur de me sentir en décalage sur notre rapport aux ressources, la manière de consommer. Enfin, en fait, je sentais qu'il y avait potentiellement plein de trucs qui allaient me tendre un peu. Genre, j'en sais rien, mais des trucs, ça peut être tout bête, mais de voir un évier couler trop longtemps pour remplir des brocs d'eau qui ne seront pas utilisés, qui seront jetés, alors que c'est de l'eau potable et que moi, je viens d'un lieu dans lequel on compte les gouttes d'eau potable. La manière de s'écouter, de prendre la parole, sur la manière de respecter les propos, sur la manière de clarifier les besoins des uns et des autres. Enfin voilà, que ce soit sur des petites choses du quotidien comme un sorte de savoir-être auquel tu t'habitues très vite et qui est très confortable, selon moi, en tout cas dans les lieux dans lesquels j'ai pu passer. Et j'ai trouvé aussi que le fait de partager avec vous, non seulement ça m'a permis de réduire cet espace de décalage, mais j'ai trouvé que ça nous a tous rapprochés, et aussi quelque part ça nous a lancé de nouveaux sujets de conversation, de discussion, pour nous faire tous évoluer.
Mais oui, ça nous a tous élevés, parce que tu as laissé infuser le trop-plein, entre guillemets, de transformation que tu avais. Et tu l'as infusé hyper bien dans notre famille pour nous faire tous bénéficier de ton expérience aussi. Donc ça, c'était trop bien. Donc c'est ça aussi qui se passe dans les interstices. C'est que tu vas ressortir chargé, que tu vas infuser dans un autre écosystème avec d'autres personnes. Dans ces moments d'intégration, tu t'es aussi donné, quoi.
C'était pas des anges non plus. L'évangile, il avait parlé, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. J'enterrais pas les compagnies, c'était leur seule litanie. Planter de la confiture aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait car c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, leurs bras lançaient des SOS. On aurait dit de laisser ma folle les copains là-bas. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. Cent ans après qu'aucun le sort, il manquait encore. On est bateaux jaunes, les bateaux jaunes, j'en ai pris beaucoup. Mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père au pénin sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains à bord, les copains là-bas.